l'aube levée, à l'ancienne fermière de s'éveiller, fussent péniblement dans le lit pourtant moelleux de l'auberge où elle s'était arrêtée la veille. Sandrine sortit donc des draps, s'habilla et grignota les restes de son plat de la veille, lesquels traînaient encore dans l'assiette posée sur la table de la chambre. La dame ensuite rassembla ses affaires et quitta s'entraîner le village d'Oreo pour n'y jamais revenir. Ainsi, Sandrine avait repris la route, suivant un chemin de terre en direction du nord. Ce qui est idiot, hein, car elle aurait dû à ce stade, et même déjà la veille finalement, se douter qu'elle s'éloignait en fait de la destination voulue. Hein. Oui. Voyez-vous, il aurait en fait suffi que la bougresse suive le fleuve lorsqu'elle le croisa, et de là d'avancer en suivant le courant pour arriver finalement jusqu'à la capitale, hein, vu que le dit cours d'eau traverse la cité en question. Mais bon, hein, je vous rappelle que nous parlons ici d'une dame plutôt jeune hein, déjà, et puis qui apparaît d'ailleurs passer l'essentiel de sa vie seule à ne rien faire d'autre que cultiver des oignons.
Hé, hey, il a signé que j'ai rien dans le bulbe.
Et bon, ainsi la journée passa, à la fois brève et interminable, alors que notre amie parcourut bien des lieux, évoluant successivement parmi les plaines, les champs et les bois. Mais le vrai malheur poignit au crépuscule, lorsque l'inquiétude vint s'ajouter à l'épuisement de la pauvre Sandrine. Car oui, après de longues heures de marche, les vieilles jambes de la voyageuse n'en pouvaient plus. Et comment allait faire l'ancienne fermière alors que le soir tombait et qu'elle s'en retrouvait perdue en pleine cambrousse, au milieu des collines et des bosquets, au demeurant des moins hospitaliers?
Ah zut! Je savais bien que je devais prendre une tente pour le cas où, en route, je ne croiserais pas de village pour la nuit. Mais j'ai préféré emporter plus de chocolat dans mes provisions à la place. Et la pire, c'est que j'ai tout fini le matin même de mon départ. C'est la merde! Oh, la ferme, les hiboux! On ne s'entend plus penser! Ah, merde, mais attends, quoi? Fais chier! Ça a l'air d'être des très gros hiboux! Et ils vont gueuler toute la nuit! Misère, ça va pas m'aider à trouver le sommeil, c'est... Oh, mais quelle est donc cette forme qui se dresse là-bas plus loin, par-dessus ces fourrés? Je ne l'avais pas remarqué en arrivant!
Et à notre amie voyageuse de s'avancer vers la dite forme, à la fois curieuse et inquiète.
Une grosse pancarte! Drôle d'endroit pour la placer! On ne la voit quasiment pas depuis le chemin! En tout cas, c'est une chose qu'il fasse encore assez clair pour que je puisse la lire! Alors, voyons. Maison en taillis? Tiens, c'est-à-dire une maison faite en bois de souche exclusivement? C'est important de le préciser! Et puis, quelle drôle de façon de l'écrire aussi! Mais surtout, mais quelle est cette histoire de maison? Je n'en vois pas, moi, dans les parages de... Oh, mais...
Oui, après que Sandrine eut fait quelques pas, le panneau, mêlé à l'obscurité naissante, cessa de lui dissimuler la vue d'une bâtisse qui se dressait juste derrière, à quelques décamètres. La vieille dame, souriant béatement et remerciant par une pensée tendre la bonne fortune, souleva alors sans plus tarder ses jambes endolories pour gagner l'abord de la maisonnette en bois.
C'est une masure sinistre et crasseuse, mais j'y entendrai sûrement moins ces foutus hiboux. Ah, vos gueules!
Une fois arrivée juste devant la porte close du chalet silencieux, et pour le coup sans doute plus par prudence que par politesse, Sandrine frappa 3 coups légers. Puis, elle attendit en retenant son souffle. Et c'est après une courte attente qu'une réponse fut donnée à cette action, mes adorés auditeurs, oui. La poignée de la porte en bois sombre tourna lentement, suite à quoi cette dernière s'entrebâilla timidement avant de se figer. Mais ceci fait, et au plus grand étonnement de Sandrine, personne ne vint se présenter sur le seuil ou ne se manifesta d'aucune sorte.
J'entre alors, hein. Enfin, je dis ça, moi je trouve qu'il y a quand même beaucoup de répétitions dans cette histoire. Ça fait la 2e maison en bois que je croise, et puis j'ai déjà passé une porte avec inquiétude l'autre jour chez Samuel.
Subtils échos scénaristiques et bonne foi d'auteur mis à part, Sandrine pénétra donc dans la bâtisse, acceptant, bien qu'intriguée, que la vallât ce lieu obscur et mystérieux, d'où émanait du reste une désagréable odeur de poisson pourri. Car oui, tout était sombre à l'intérieur. Enfin, tout, hormis les quelques bouts de surface que pouvait atteindre la lumière rougeâtre d'un brasero, âtre modeste qui crépitait au centre de la grande pièce où donnait l'entrée, dite pièce qui dut jadis être sans doute un salon, et se trouvait être, du reste, vide de tout mobilier.
Mon Dieu, mais quel est cet endroit ?
À dire vrai, ce salon semi-obscur eût bien même pu se faire qualifier de serre en sapin, que cela n'aurait suscité nulle salmigondie, ô mon audience fascinée. Car d'étranges et robustes... lierre ou liane, je l'ignore, oui, ne m'en veuillez pas, hein. 10 années après, je ne suis toujours pas arbrologue. Enfin, que d'étranges pousses, longiformes en tout cas, semblaient avoir envahi murs, sol et plafond.
D'abord une invasion de Kevinson, et maintenant des plantes parasites. C'est un technico-scénaristique, ça aussi ?
Et en faisant quelques pas, Sandrine s'apprêta à rencontrer le sol une troisième fois, alors qu'elle se prit les pieds dans l'une de ses lianes. Mais un heureux réflexe, dont elle fut la première étonnée, soit dit en passant, lui permit de se ressaisir, ce qui nous évitera donc un nouveau séisme tellurique.
Bonsoir, monsieur dame.
Dit avec embarras notre amie, qui se redressait, tout en saluant les personnes qui se trouvaient là, assises autour du brasero, et que je n'ai pas encore eu le temps de mentionner, hein, parce que Madame Sandrine m'a grillé ma narration en disant bonsoir trop tôt.
Oh oui, merde! Désolée!
Ah, oh, mais je ne suis pas fâchée, hein. Mais c'est juste que c'est pas très pro tout ça, ma bonne Sandrine, hein. Concentrez-vous un peu, je vous prie, sinon on ne va pas s'en sortir, hein, vous savez,
hein. Ah, oh, je m'en doute, mais c'est tout ce trajet et cette mésaventure. Je suis épuisée.
Oh, allons, allons, ne vous morfondez pas, ma chère Sandrine. Ah, venez plutôt nous rejoindre, allez, venez. Je vais vous servir un bon martini, hein, c'est un excellent remède contre bah, à peu près tout, en fait. Ah oui, les auditeurs Sandrine, Sandrine, les auditeurs. Allez, je vous sers un petit verre, voilà. Allez, tenez, buvez-moi ça, hein, voilà. Tenez, ne renversez pas. Ah, ça vous fera du bien. Ah, alors ça va mieux, hein.
Oh, oui,
oui. Ah, merveilleuse Sandrine. Hein. Allez, on y retourne, hein. Voilà, retournez dans votre décor. Et on continue. Allez, hein, je bois un petit coup aussi, moi. Ah, et puis voilà, c'est parti, hein. Comme elle distinguait trois silhouettes de type anthropomorphique et positionnées tout autour de l'âtre, près duquel d'ailleurs l'une des dites formes venait tout juste de reprendre place, sans doute celle qui ouvrit la porte un peu plus tôt probablement, bref, la brave Sandrine, elle, toute intimidée par sa situation d'intruse, s'adressa aux entités en question, tandis que ses yeux faisaient le point et commençait peu à peu à les distinguer.
Bonsoir, monsieur dame.
Demanda avec autorité l'une des trois silhouettes, celle qui trônait au milieu des deux autres. Sandrine arrivait désormais à voir plus nettement le dit individu. Il s'agissait d'un jeune nabot. Coiffé d'un étroit chapeau à plumes, il se tenait assis sur un petit tas de lianes coupées, fixant Sandrine en plissant les yeux avec la tête un peu penchée en arrière, ceci tout en tripotant le pommeau d'une petite épée qu'il maintenait verticalement, la pointe contre le plancher.
Pardon de vous déranger, jeune homme. Je suis en route vers la ville et j'ai besoin d'un abri pour la nuit. Auriez-vous la bonté d'accepter d'héberger une pauvre vieille dame jusqu'à l'aube ?
Fort bien, pourquoi pas ? Cela nous ferait de l'animation. Trouvez-vous donc un coin par là-bas.
Oh, grand merci, jeune homme. Vous êtes fort aimable.
Ravie, Sandrine emporta son baluchon jusqu'au coin de la pièce que lui avait indiqué son hôte. Elle fut cependant intriguée, alors qu'elle marchait vers le dit endroit, et que son regard vint à croiser celui des deux autres silhouettes. Ces dernières n'étaient vraisemblablement pas natives de la région, non. En somme, si l'on avait dû les comparer à des créatures de notre monde à nous, mes chers auditeurs, l'on pourrait, sans trop d'hésitation, les assimiler à ces organismes que nous nommons communément, et en règle générale, des japonaises. Oui, et en somme, ces deux jeunes et jaunâtres demoiselles en question, assises de part et d'autre du maître Nabo, se trouvaient être, voyez-vous, dans un état de nudité avancée, dirons-nous. Abstraction faite de quelques rares lambeaux, vestimentaires vestiges subsistant à de rares endroits de leur personne, oui. Et les pauvrettes, vêtues de peu, en tout cas, semblaient embarrassées, honteuses même, et avaient du mal à soutenir le regard de Sandrine, qui les fixait hébétées tout en s'installant dans son coin de la pièce.
Il faut bien se soutenir entre femmes.
Hein?
Au fait, vous n'avez qu'à vous bricoler une couchette avec les morceaux de tentacules qui traînent à vos pieds, hein? Ou balancez-les plus loin s'ils vous dérangent, je m'en fiche.
Pardon, entre femmes, vous dites? Et comment ça, des tentacules? Mais j'avoue que je ne saisis pas, mais peu importe. Ce ne sont pas mes affaires, après tout. Et pour ma part, je me nomme Sandrine, et je vais vers la ville, donc, pour y trouver du travail. Hein. Et vous, monsieur, mademoiselle, vous vivez ici?
C'est une histoire longue et dure.
Et tandis que Sandrine s'installait comme fer se pouvait sur le sol, avec son baluchon en guise d'oreiller, l'étrange hôte allait relater son parcours.
Vieille femme, je me présente. Je me nomme Penisio. Mais j'étais autrefois une frêle jeune fille que l'on nommait Utérine.
Hein?
Oui, et j'ai vécu une épreuve terrible récemment, mais ça n'a pas amoindri ma détermination. Mon opération de changement de sexe a bien eu lieu en temps et en heure, comme prévu. Et c'est ainsi que je suis devenue Penisio.
Oh, ce un peu irrationnel de consacrer tant d'énergie à se fabriquer un personnage plutôt que de simplement se construire soi, mais si vous êtes heureux comme ça...
Silence, femme, je n'ai pas fini. Et comme je n'avais pas envie de rentrer directement au château, lassée d'avance par les commentaires passéistes qu'allait inévitablement avoir fait mon cisgenre de père, j'ai préféré me mettre un peu au vert avant. Après tout, c'était une très lourde opération et il me fallait un refuge où je pourrais cicatriser en paix. Et j'ai donc pensé à cette cabane que je croisais quelque temps plus tôt lorsque j'évoluais parmi un groupe de gouchards.
Ah bon, mais c'est quand même un petit peu sinistre, non? Comme endroit pour se reposer.
Ce n'est pas une petite maison en taille qui allait effrayer le valeureux Penisio. Non, madame. Je prends d'ailleurs des hormones en complément de mon opération. Et j'ai obtenu ainsi la force nécessaire pour enfin soulever mon épée. Et je suis venue jusqu'ici. Puis, je suis entrée brusquement. Et à l'aide de mon arme, quitte à même me faire sauter quelques points de figure, j'ai terrassé les lubriques et patriarcaux tentacules dont vous pouvez voir les morceaux mous et inertes sur le sol.
Oh, c'était donc ça!
Cela n'a pas été difficile. Les pauvres tentacules se sont pratiquement laissés faire. Ils étaient bloqués parce qu'ils n'arrivaient pas à trancher sur le sexe auquel j'appartiens. Ils ne savaient pas s'ils devaient me déshabiller, me violer ou me tuer, si vous voulez. Et du coup, j'ai astucieusement profité de leur tyrannie.
C'est impressionnant tout ça, mais si je puis me permettre, qui sont donc ces deux jeunes personnes à vos côtés?
Ah oui, mes greluches. À cause jamais, alors j'en arrive vite à les oublier. Elle s'appelle Timmy. Et l'autre, c'est Chua. Ou l'inverse, je sais plus, je m'en tape. Ces deux jeunes japonaises étaient les prisonnières de tentacules. Et comme j'ai vaincu ces derniers, l'usage aurait voulu que j'eusse agi en héros et que je rendisse leur liberté à ces deux poufias. Mais c'était hors de question.
Bah, pourquoi?
J'estime qu'elles me reviennent de droit. J'ai tué les tentacules, donc j'ai conquis leurs avoirs. Ces deux salopes sont donc devenues mes esclaves personnelles. Et ce faisant, j'ai une nouvelle fois pu démontrer l'égalité des sexes, oui. Car moi, une frêle jeune fille, j'ai ainsi réussi à être aussi misogyne que les hommes les plus machos.
Mais à cet instant, Sandrine n'écoutait plus que d'une oreille très lointaine, alors que, toujours épuisée, la pauvre dame s'en trouvait à lentement glisser vers l'état de sommeil.
Ce matelas de tentacules n'est pas aussi confortable que le lit de l'auberge d'hier soir, mais au moins, on n'entend pas à travers le plancher ces quatre mendicantes de la princesse qui gueulent à longueur de temps.
Les yeux clos, Sandrine ne le vit pas. Mais à ces paroles, Penisio se figea net et son regard devint féroce.
Les quatre gardes de la princesse, vous dites? Non, se pourrait-il que nous parlions de mes odieux violeurs?
Quatre colosses bas de plafond, les anciens gardes du corps de feu la princesse Migraine, m'a-t-on dit.
Le doute s'estompe.
Ils passaient leur temps à crier « Afifi par-ci, Afifi par-là !»
Ah oui, c'est bien eux. Les fumiers!
D'ailleurs, c'est sans rapport, mais l'un d'eux avait accroché à la ceinture, à la place d'une épée, un genre de très gros ouvre-boîte. C'était bizarre, ça. En tout cas, ces gardes du corps-là m'ont semblé aller très bien. Quoi qu'ils eussent éventuellement pu faire de pas jojo dans le passé, ça ne semblait pas du tout les affecter. À voir même s'ils pourraient seulement s'en rappeler, hein, avec tout ce qu'ils picolent. Ils m'ont surtout semblé plus bêtes que méchants, hein. Ivres qu'ils étaient, comme chaque nuit paraît-il d'ailleurs, hein, à boire et à comater. Et ils semblaient peu aptes à se battre, et donc des plus inoffensifs, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Hein. N'importe qui pourrait les pourfendre un par un s'il le voulait, c'est certain. Si, si, je vous assure, il n'y a même pas de milice en plus dans ce petit village à un jour au sud-ouest. Ce serait le crime parfait à portée de main, c'est certain. Mais bon, enfin, j'ai dit ça, moi. Et ça, c'est juste histoire de causer, hein. Non, mais je tiens plus, moi. Tout ce voyage et puis ce verre de martini, là. Oh. Allez, bonne nuit, hein, monsieur.
Au petit matin, Sandrine s'éveilla paisiblement. Les tentacules étaient toujours là, ainsi que les deux japonaises, passivement recroquevillées dans un autre coin de la pièce. Le feu de l'âtre était éteint, mais au-delà de ça...
Tiens, curieux, quelque chose semble manquer au tableau.
Pensa Sandrine, avant de réaliser aussitôt après que c'était le nabo bizarre, ce dénommé Penisio, qui n'était plus là. Car oui, il se trouva que ce dernier s'en était allé pendant la nuit, sans prévenir, alors que dormaient Sandrine et les deux japonaises. Et de fait, comme les dites esclaves s'avéraient ainsi libérées de leurs obligations, notre brave fermière, qui avait bon cœur, leur prêta à chacune une robe de son baluchon. Et les trois gonzesses, désormais unies face à l'adversité, par le concours de circonstances devant lequel elles se trouvaient de fait, s'accordèrent sur l'idée de faire route ensemble vers la capitale, en vue, vous l'aurez compris, hein, d'y trouver toutes un emploi et une situation. Et donc ainsi, après une nouvelle longue marche qui nous amènera, mes chers auditeurs, en fin de matinée...
Oh mais putain de bordel! Mais c'est pas la capitale, ça! Ah ben zut, ah, j'ai dû me tromper quelque part en cours de route. Mais alors, à l'entrée de quelle ville nous tenons-nous du coup?
Salut.
Hein?
Nous sommes les Sphinx, gardiens de l'entrée.
Ouais, et vous ne pourrez passer que si vous répondez une énigme.
Ah d'accord, je vois.
Et oui, mes chers auditeurs, la bifurcation prise la veille par Sandrine l'avait finalement menée, non pas à la capitale de notre cher royaume lointain, etc., non, 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 mais bel et bien devant les portes de Voisinia, la ville voisine. Et de fait, un peu prise au dépourvu, nos amis se concertèrent. Mais finalement, voyez-vous, la situation ne fut pas jugée problématique, car après tout, Voisinia était une cité tout à fait honorable, oui, et elle n'était pas moindre destination que la capitale, en tout cas vis-à-vis des objectifs que Sandrine et les deux anciennes esclaves s'étaient fixés. Aussi, après avoir contourné les deux statues, en passant par l'entrée secondaire creusée dans la muraille, nos trois voyageuses pénétrèrent dans la cité, découvrant alors, émerveillées, un décor nouveau, et sans doute pour elles, plein d'opportunités.